Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Radicalisation de la grève des enseignants, quelles sont les solutions? On en parle aujourd'hui dans ce magazine de la vie au quotidien. Okapi Service, nous aurons comme invité le professeur Peter Kasongo, conseiller du chef de l'État en charge de l'éducation. Jacques Timbalanga, coordonnateur national de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Maître Grace Mouawa, expert en droit du travail. Et sera également de la partie. Et déjà en ligne, nous avons Jean Bosco Pouna, secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Jean Bosco Pouna, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans cette émission. On vous retrouve dans quelques instants. Des questions et préoccupations, eh bien, appelez déjà au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Dans la deuxième partie de ce magazine, nous allons parler de la navigation. Que faire pour prévenir les naufrages sur le fleuve, lac et rivière de la République démocratique du Congo? Eh bien, nous allons en parler à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Pour participer à cette émission, composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Il est assisté des Fritti, Paul Banenama. À la mise en onde au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
L'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission, fidèles auditeurs. Une semaine après la rentrée scolaire, les violons ne s'accordent pas toujours entre les enseignants grévistes et les autorités du ministère de l'EPST. Alors qu'ils réclament l'amélioration de leurs conditions salariales, certains enseignants des écoles conventionnées catholiques ont été désactivés de la fiche de paie. Des menaces de désactivation pèsent également sur tous les autres qui ne se présentent pas dans les salles de classe pour enseigner les enfants. Cela a pour effet la radicalisation du mouvement des grèves dans plusieurs provinces à travers le pays. Alors, quelles sont les solutions envisagées face à ce bras de fer entre le ministère de l'EPST et le banc syndical des enseignants? Jean Bosco Pouna, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, on assiste actuellement à un bras de fer entre le ministère de l'EPST et le banc syndical des enseignants. Mais quelles sont les voies de sortie? Quelles sont les solutions à envisager?
Oui, merci beaucoup de l'opportunité que vous nous donnez, une fois de plus, pour pouvoir nous exprimer sur la question. Eh bien, quelles sont les voies de sortie? Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que les écoles sont neutralisées du fait de la mauvaise foi du gouvernement. Manifestement, le ministre de l'EPST n'a pas véritablement joué son rôle en tant qu'homme d'État. Parce que, regardez, avec la mesure liberticide de désactiver des pères de famille, des enseignants, qui ont toujours travaillé dans les secteurs avec tous les sacrifices dont il faut reconnaître aujourd'hui. Il est vraiment regrettable que ces enseignants puissent être désactivés. Donc, parmi les solutions, il faut absolument que les enseignants victimes de cette mesure soient rétablis dans leurs droits les plus fondamentaux. Mmh. Et en ce moment-là, je crois que ça va véritablement apaiser la situation sur le terrain. Il y a également cette décision du secrétaire général AI, cette décision venue de la tutelle, bien entendu, de pouvoir menacer, intimider tous les enseignants respectueux du mot d'ordre des grèves. Ces enseignants à qui on donne 190 000 francs, et l'on ne veut pas que ces enseignants puissent revendiquer les bonnes conditions de vie, nous trouvons ça excessif. Donc cette décision également doit être suspendue, et le ministre doit prendre le courage lui-même de pouvoir annoncer toutes ces mesures. Et un autre élément qu'il faut ajouter ici, c'est la convocation d'un dialogue franc et d'un dialogue sincère avec les véritables porteurs de la revendication. Vous avez suivi hier l'intersyndical qui vraiment ne représente pas, qui n'a pas appelé à la grève, mais c'est cet intersyndical que le ministre utilise, que c'est cet intersyndical que le ministre rencontre. Je crois que c'est mal faire les choses, parce que l'intersyndical n'avait jamais appelé à la grève, et vous vous entourez des syndicats qui ne portent pas la grève. Je crois que c'est une manière qui n'est pas très responsable de voir les choses. Il y a également l'implication personnelle du président de la République qui est le garant de la gratuité. Je crois qu'il faut que le service de la présidence fonctionne pour que finalement, parce qu'apparemment le ministre Tony n'est plus à la hauteur de cette tâche-là, de convoquer un dialogue sincère. Il faut absolument que sa hiérarchie puisse prendre les choses en main pour que nous ayons un véritable cadre de discussion qui puisse nous permettre de sortir de la crise qui est en train de secouer l'EPC maintenant. Parce que le calendrier scolaire est déjà entamé, et nous, en tant qu'enseignants, nous avons besoin de pouvoir encadrer les élèves, mais il faut absolument nous mettre dans le minimum de conditions pour véritablement faire le travail tel que nous avons appris cela. On ne peut pas continuer à être devant les élèves avec des enseignants complètement démotivés dans des salles de classe vraiment trop pleines. Et je crois que c'est le gouvernement qui doit répondre à toutes ces préoccupations. Et si cela arrivait, eh bien, sur l'étendue du territoire, les enseignants vont devoir recommencer le travail. Donc ce sont des préalables, et je crois que le gouvernement va prendre tout ce que nous sommes en train de proposer au sérieux pour que les enseignants puissent recommencer le travail et que nos enfants puissent retrouver leur droit à l'éducation.
Bien, donc d'après vous, pour les voies de sortie, c'est d'abord rétablir les enseignants désactivés de la fiche de paye, arrêter avec les menaces et intimidations à l'égard des enseignants et engager un dialogue sincère avec les vrais syndicalistes. Cela veut dire qu'il y a aussi des faux syndicalistes.
Mais il y a des faux syndicalistes, tous ces syndicalistes-là qui sont payés par les CECOP. Ils ne portent pas les revendications des enseignants, ils viennent pour faire ombrage. Et le ministre, malheureusement, recourt à ce genre de personnes pour créer un dysfonctionnement dans le système. Il est important aujourd'hui qu'on s'apaise, qu'il recule, qu'il fasse amende honorable, ce sont les enseignants quand même qui l'ont formé. Il faut absolument qu'on nous renvoie l'ascenseur. C'est très important que nous ayons un dialogue social sincère qui puisse nous permettre d'aller vers une politique salariale. Parce que lorsqu'on envisage une politique salariale, ça signifie que l'on va devoir déterminer les différentes revendications des enseignants à court, à moyen et à long terme. Nous avons beaucoup de problèmes dans le secteur. N'oubliez pas que les enseignants ne font pas correctement soigner. Il y a une mutuelle qui est bradée aujourd'hui avec tout ce que l'IGF a fait, mais ce sont des personnes qui doivent être mises aux arrêts. Cette mutuelle doit servir à tous les enseignants de la République, autant de questions qui demandent un cadre de concertation qui puisse puisse sécuriser les enseignants et sécuriser le gouvernement, pourquoi pas, sécuriser les parents et les élèves. Si ce cadre de concertation n'est pas convoqué, on ne sait pas comprendre comment les enseignements vont devoir reprendre. Parce que les enseignants sont véritablement déterminés, et il y a une batterie d'actions qu'on est en train de préparer à travers la République pour davantage faire pression au gouvernement. Donc le gouvernement a toute la possibilité de résoudre la crise que lui-même a créée.
Mais on a suivi dans une vidéo le ministre de l'EPST dire que la vraie raison derrière tous ces mouvements des grèves, c'est que il y a des gens qui sont contre la gratuité de l'enseignement.
Mais vous savez que le ministre peut-être n'a pas tort. Il y a des gens qui sont contre la gratuité de l'enseignement depuis la nuit des temps. Mais nous, au niveau du Sénécat, je crois que tout le monde, notre société le sait, que nous avons milité en faveur de l'avènement de la gratuité. Et nous avons même payé les prix. Lorsqu'on vous raconte que non, lui n'est pas de telle école, etc. Mais c'est par rapport à cette lutte. Et tous les enseignants savent, les ennemis de la gratuité. Mais le problème aujourd'hui n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est au niveau du paiement des enseignants. Ces enseignants, nous avons nos amis qui sont à Kasangoulou ici. Ils sont vraiment à quelques kilomètres de Kinshasa. Mais ils ont un salaire qui est vraiment très moins que celui qui est à Kinshasa. C'est de la discrimination. Ça, ce sont des problèmes que le gouvernement peut régler. Il y a les problèmes de nouvelles unités. Depuis Willy Bakonga, nous ne cessons de rappeler cela. Les nouvelles unités continuent à être devant nos enfants comme des mercenaires. Je crois que ce sont des choses qui doivent s'arrêter. Il y a la question de la retraite cavalière que le ministre Tony veut imposer aux enseignants. Il les remplace, il les désactive pour pouvoir les remplacer par d'autres. Mais en même temps, il n'y a pas une contrepartie. Je crois qu'on ne gère pas le secteur de l'EPST de cette manière-là. Il faut absolument qu'on résolve les vrais problèmes qui sont posés. Mais lorsqu'on dit qu'il y a des ennemis de la gratuité, aujourd'hui ou jamais, tout le monde doit savoir que la gratuité est irréversible. Je ne vois pas le président de la République reculer par rapport à cette réforme, par rapport à cette gratuité, parce que lui a entériné les desiderata de la société. Et tous les parents sont d'accord par rapport à ça, parce qu'ils sont des démunis, parce qu'ils sont des gagnes petits. Je crois que le gouvernement, le Premier ministre, son Excellence Samalou Kondé et le chef de l'État, garant de la gratuité, ils vont devoir s'impliquer résolument pour que nous ayons les cadres qui nous permettent de pouvoir résoudre les problèmes dans une approche progressive.
Bien, Jean Bosco Pouna, par rapport aux enseignants désactivés, est-ce que votre syndicat envisage de saisir les instances judiciaires à ce sujet?
Mais c'était déjà envisagé. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons la Voix des Sans-Voix à côté de nous. Nous avons toutes les organisations de défense des droits humains, notamment la SADO. Nous sommes en train de constituer la plainte et je crois que si tout s'est présenté normalement, nous allons devoir déposer cette plainte au plus tard le jeudi. Et envisager maintenant les grandes marches synchronisées à travers la République. Donc, le ministre de l'EPST doit être mis au banc des accusés. Nous portons plainte auprès du procureur général, près la Cour de cassation, et aux différentes instances internationales, notamment les BIT, parce qu'il y a des normes que notre pays a ratifiées, des conventions que notre pays a ratifiées, qui sont en train d'être sabordées, qui sont en train d'être violées. Il faut absolument que les ministres de l'EPST répondent de ces actes-là. Donc, au niveau du Sénécat et au niveau de la synergie, nous nous mobilisons quant à ceux.
Bien, merci Jean Bosco Pouna. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques et vous êtes aussi les représentants de tous les syndicalistes, de tout le mouvement syndical à travers le pays, le mouvement syndical des enseignants. Merci et bonne journée.
C'est moi qui vous remercie, Jody.
Bien, on va accueillir tout à l'heure Jacques Tchimbalanga. Il est coordonnateur national de la coalition nationale pour l'éducation pour tous. Jacques, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Bienvenue. Avant de vous accorder la parole, on va accueillir Yves Mouyaya, qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour, Yves.
Bonjour, monsieur Jody.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que à la question posée, au lieu de la radicalisation de la grève, moi, je parle plutôt de la rationalisation de la grève. Il faut rationaliser la grève. Vous savez, dans notre pays, lorsque nous parlons du secteur de l'enseignement, nous ne pouvons pas oublier que c'est tout le secteur de la vie congolaise qui sont par terre. Et lorsqu'on parle des salaires, d'amélioration des conditions de travail, etc., ce sont des droits économiques. Les droits économiques évoluent en fonction de la situation de l'économie d'un pays. Vous savez que notre pays, l'économie est par terre, le budget n'est pas à la hauteur.
Yves, vous voulez dire que le gouvernement n'est pas en mesure actuellement de répondre aux revendications des enseignants?
Monsieur, je dis, moi, je pense que vous êtes congolais, vous le savez très bien. Lorsque Félix a accédé au pouvoir, l'enseignant ne touchait pas plus de 50 dollars. Mais avec les efforts qu'on a jusque-là, il y a plus de 100 dollars, plus de 200 dollars, 300 dollars même que les enseignants sont en train de toucher. Si nous avons vraiment l'amour de ces pays, nous ne pouvons pas mettre la pression terrible comme ça sur le gouvernement alors que on fait quand même, on multiplie les efforts pour qu'on puisse améliorer tant soit possible.
Alors Yves, qu'est-ce que vous demandez aux enseignants de faire, de reprendre carrément les enseignements?
Moi, je demande aux enseignants de comprendre que le gouvernement a la bonne volonté d'améliorer les conditions de leur travail. Les signes ont été donnés. Aujourd'hui, on est passé de 50 dollars à plus de 200 dollars. Donc, il y a une volonté politique qui n'est pas à démontrer pour que ces conditions d'emploi ne peuvent pas continuer à radicaliser la grève, mais plutôt rationaliser cette grève, comprendre que non, la réalité telle que le gouvernement n'est pas en mesure de satisfaire à tous les problèmes posés, et donc ça va s'améliorer en fonction de l'amélioration de l'économie du pays.
D'accord, merci Yves. Serge Kalobia, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour, bonjour à l'invité, bonjour à Radio Capi et à vous, monsieur le journaliste.
Nous parlons de la grève des enseignants, quelles sont les solutions? Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Merci beaucoup pour ce sujet. Bon, en fait, moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de sujets à proposer au gouvernement congolais parce que, vous savez, avant l'avènement de notre président de la République, Tshisekedi Tshilombo, nous, on était habitués à payer les enseignants. On était habitués à payer les enseignants parce que ce système ici de grève rend nos enfants malfaiteurs, voleurs, et ainsi de suite. Je propose, il n'y a pas de la honte parce que ce n'est pas seulement les enseignants qui entrent à grève. Il y a les infirmiers, il y a les médecins, il y a les avocats, et ainsi de suite. Les gens entrent en guerre, donc il n'y a toujours pas de solution. Maintenant, nous parents qui avons besoin un jour que nos enfants deviennent aussi ministres comme eux, nous voulons carrément que nous puissions retourner en train de payer les enseignants comme c'était le cas.
Serge, quelle est la solution? Quelle est la solution? Oui. Quelles sont les solutions que vous envisagez?
Les solutions, c'est qu'ici à Kindu, nous sommes retrouvés dans un petit comité. Nous sommes en train de voir comment nous pouvons proposer des solutions afin que nos enfants commencent à étudier. Nous allons prendre nos enseignants nous-mêmes en charge. Parce que si nous entendons, ça sera seulement encore une année bâclée. Parce qu'après 2 mois, ils vont retourner, ainsi de suite. Nous avons connu une année tellement difficile l'année passée, où nous voulons encore recommencer, nous voyons qu'il n'y aura pas de solution, nous voulons seulement prendre les enseignants en charge, nous-mêmes les parents, on va payer les dons, c'est tout. C'est ça ma solution. Parce que si nous attendons, on n'aura pas de solution.
D'accord, merci. Justin, vous êtes à Fungurume, bonjour.
Bonjour, bien-aimé Jody, et je dis bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi qui nous suivent en ce net moment.
On vous écoute, Justin.
Oui, mes argumentations vont tourner sur trois points essentiels. L'entrée en grève en 1991. Donc, avant 1991, c'est l'État qui prenait en charge de ma période. Je me rappelle bien, j'étais en première CO à l'Institut Pombo de Kayeye. Là, on avait grévé pour la toute première fois. Je ne savais pas les causes puisque j'étais encore gosse. Deuxième volet, l'arrivée du Sami Badi Banga au ministère, quand il était nommé premier ministre de la République, sur ses plans d'action, il avait dit qu'il y avait aussi la gratuité. Donc, par mes analyses, j'avais vu qu'il avait jeté un coup d'œil sur l'enveloppe de revenus de la République démocratique du Congo en tant que le chef du gouvernement. Il avait déclenché qu'il va aussi matérialiser la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est d'après mes analyses. Et quand il a essayé de marquer le pas, j'ai senti qu'il était beaucoup étouffé et on déboostait des sommes colossales pour des choses inutiles qui n'avaient même pas trait aux priorités
du peuple congolais. Justin, oui. Actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire pour détendre l'atmosphère? Parce qu'on assiste à un bras de fer entre les enseignants et les autorités de l'EPST. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver des solutions, résoudre ces problèmes à l'amiable?
Si je débutais par là, d'ailleurs, le dernier point actuellement, c'est le président de la République, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déclenché aussi dans la canette. Il y a beaucoup.
Vous parlez du président Félix Tshisekedi.
Ouais, effectivement.
Okay.
Il y a beaucoup d'argent. Quand il venait au pouvoir, il sentait ses douleurs, puisqu'il était aussi victime dans certaines histoires. Il a vu l'enveloppe que ça pouvait rapidement couvrir la gratuité de l'enseignement. C'est pourquoi il avait déclenché. Si vous réjustez, donc c'est supposé qu'il n'avait pas bien analysé pour dire ça. Et je sais très bien si je vous ai amené à Sami Badibanga, actuellement c'est le président.
D'accord, nous savons que le gouvernement avait promis aux enseignants, on va vous payer, le salaire va augmenter par palier. Bon, voilà.
Oui,
voilà,
oui. Pour pallier à cette situation, ça ne demande même pas de tergiverser. C'est la volonté des dirigeants de mettre beaucoup d'argent pour garantir la gratuité de l'enseignement et tout ira à la fin. Voyez le terreur qu'on est en train de faire aux enseignants là, en les balayant sur la liste de paye. C'est pour les terrifier, pour qu'elles continuent à faire toujours ce qu'ils ont besoin à faire sur la priorité. Or que parmi les priorités des priorités, les sociales, c'est la gratuité de l'enseignement. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'argent que nous allons garder à la maison qu'on est en train de dépenser et multiplier aussi des écoles publiques, pas des complexes scolaires privés.
Là, bien, merci Serge. Merci Justin. On sait que le gouvernement a ajouté, je crois, 20 000 francs congolais à chaque enseignant, mais ils estiment que c'est encore c'est dérisoire par rapport à leurs réclamations. Merci d'avoir appelé Jacques Tchimbalanga. Vous avez suivi les différents auditeurs. Votre réaction.
Allô?
Oui, on vous écoute, Jacques.
Oui, c'est donc ma réaction qu'on sollicite à ce sujet. Et donc, en suivant les auditeurs, j'ai l'impression que certains pensent qu'on peut encore faire un tour en arrière. Ça veut dire retourner à la prise en charge des enseignants par les parents. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut désormais véritablement oublier, parce que là, c'est revenir à quelque chose qui a déjà été honni, désapprouvé. C'est vrai que actuellement la situation n'est pas bonne, dans ce sens que c'est bloqué un peu partout. Mais une chose est vraie, c'est que la solution doit véritablement venir de négociations franches entre l'État et le banc syndical. Je crois que jusqu'à présent, ces négociations n'ont pas été franches. N'ont pas été franches, pourquoi ? Parce que, d'un côté, l'État a fait véritablement des promesses fermes. Et que si on assiste à la situation actuelle...
C'est parce que le gouvernement n'a pas respecté ses promesses.
Non pas seulement qu'elle n'a pas respecté ses promesses, mais n'a pas discuté de manière franche avec le banc syndical. Tenez, le gouvernement avait d'abord, par rapport à ce qui s'était entendu avant, décidé... Ensemble, ils se sont convenus qu'ils devaient payer deuxième et troisième palier. Mais bon, que après, le gouvernement est passé. Ils se sont convenus encore. Le gouvernement est passé à la promesse de donner 100 000 francs à chaque enseignant pour finalement chuter à 20 000 francs. Ça veut dire que d'un côté, on ne discute pas de manière franche avec les enseignants. Les enseignants sont des partenaires. Les syndicats des enseignants sont des partenaires. Il appartient à l'État, en discutant avec eux, de mettre les choses sur la table et de le dire clairement. Mais ça déjà, c'est la première chose qui n'avait pas été très bien faite, qui n'avait pas été très bien négociée. La deuxième chose, c'est que on est là devant une situation où le pouvoir d'achat des enseignants s'est véritablement effrité. Il est question de commencer progressivement à éponger cette tâche-là qui est véritablement un problème. Mais s'il faut dire quelque chose dans le sens comment dénouer la situation aujourd'hui, c'est qu'il y a des solutions à court terme, il y a aussi des solutions à moyen terme. À court terme, l'État doit donner des signaux clairs. Les signaux clairs, c'est quoi ? Par exemple, lorsqu'on lit le budget, la proposition que le gouvernement a déposée à l'Assemblée nationale pour 2022, on constate que par rapport à 2021 ou à 2020-2021, où la consommation du budget de l'État en faveur de l'éducation était de 24,5%. Ce budget-là a été réduit dans la proposition actuelle du budget à 16,7%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un problème. Si déjà l'État ne sait pas garantir que sa propre promesse de continuer à donner assez de ressources dans l'éducation au regard, bien entendu, de la décision ferme qu'elle a prise, qu'il a pris d'offrir un enseignement de base gratuit, parce que ça nécessite qu'il y ait une augmentation, que l'État réduit lui-même déjà les allocations en faveur de l'éducation, il y a problème. L'État a lui-même pris l'engagement, bien entendu, pas plus tard que le mois de juillet à Londres, au sommet mondial pour l'éducation, que plus jamais le budget de l'éducation descendrait en dessous de la barre de 20% du budget national. Mais la proposition qui vient d'être déposée montre clairement qu'on est en deçà. Eh bien, cela...
Comment expliquer cela?
Justement, ça ne s'explique pas. Quand le gouvernement réduit lui-même la part du budget allouée à l'éducation, ça veut dire que il y a problème auprès de ceux qui programment. Le ministère du budget a problème, le premier ministre a problème. Il y a des problèmes sérieux. La réforme de l'éducation de base nécessite environ 2,4 milliards de dollars américains l'an. Nous n'avons jusque-là réussi à mobiliser que près d'un milliard. Ça veut dire qu'il faut encore plus de ressources. Mais lorsqu'on réduit,
il y a des partenaires qui avaient promis de contribuer à cet argent pour soutenir la gratuité.
Mais écoutez, l'argent que promettent les autres, c'est pas encore votre argent. C'est-à-dire que l'État doit lui-même faire des efforts incommensurables pour augmenter la cagnotte. Tant que cette cagnotte-là ne va pas augmenter, les remous sociaux vont continuer. Et autre chose que les gens ne comprennent pas, et moi je comprends un peu pourquoi l'État est devenu dubitatif. Et nous en appelons au Premier ministre de prendre le bras par le corps, entrer en programme avec le Fonds monétaire international. Vous savez, là, cette entrée en programme avec le Fonds monétaire international commence à donner des effets négatifs, surtout en ce qui concerne la prise en charge des secteurs sociaux. C'est pratiquement le même tableau que nous avons, que le pays a vécu en 1981 à l'entrée du pays en programme avec le Fonds monétaire international, que vous connaissez tous, le programme d'ajustement structurel. Le budget de l'éducation est passé de 33% à 17% pour finir à 0,5%. C'est la même chose aujourd'hui, nous commençons de 24,5% jusqu'à descendre à 16,7%. Et la marche risque de continuer si l'État ne veut pas prendre les choses en main. Et donc là, je crois qu'il faut d'un côté privilégier que toutes les parties prenantes, enseignants et l'État, rentrent à la table de négociation pour discuter de manière franche, et que de l'autre côté, l'État doit fournir plus d'efforts et montrer des signaux clairs en ce qui concerne le respect de ses propres engagements, parce qu'en fait, c'est le droit à l'éducation des enfants qui est en pâture, qui se retrouve aujourd'hui en pâture.
Alors Jacques, si le gouvernement n'est pas à mesure d'honorer ses promesses, vous voulez dire qu'il doit les reconnaître et les dire sincèrement aux enseignants?
Il doit le dire clairement, mais il y a également d'autres pistes de solutions. Quand vous n'arrivez pas à mobiliser de l'argent, d'ailleurs, il y a des signaux aujourd'hui qui montrent que l'État commence à mobiliser. Mais qui commence à mobiliser beaucoup plus d'argent que les deux, trois autres années passées. Mais on ne peut pas comprendre qu'en même temps que l'État augmente ses ressources, que de l'autre côté, en ce qui concerne le secteur social tel que l'éducation, on commence à diminuer les allocations.
Oui.
Donc, cela veut dire que là, nous invitons le gouvernement à avoir une attitude qui peut sécurisé, qui peut dire aux gens effectivement que nous voulons aller de l'avant. On ne peut pas vouloir aller de l'avant lorsque vous faites des promesses. Vous dites que nous allons augmenter, mais que nous allons payer les enseignants, mais vous diminuez la part du budget alloué à l'éducation au regard de toutes les réformes qu'il y a à supporter. C'est incompréhensible. C'est donc l'État qui doit revoir sa cagnotte. Et de deux, face à la communauté internationale, bien entendu, l'État a dit que nous allons maintenir au-delà du seuil de 20% le budget alloué à l'éducation. Mais ils viennent justement de faire le contraire. Je crois que là, c'est l'État de, à l'État de rendre crédibles ses propres engagements. Tant qu'on ne respecte pas ses propres engagements, bien évidemment, il y a manque de crédibilité et ça risque, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ces remous sociaux. Et donc, à la table de négociation, nous pensons que l'État doit absolument discuter de manière franche avec les partenaires sociaux. Les enseignants sont des partenaires sociaux, il faut les respecter, il ne faut pas les brimer, il ne faut pas les menacer, il faut discuter de manière franche et étape par étape, dire qu'à tel moment, je vais faire ceci, à tel autre moment, je vais faire ceci. Nous avons des difficultés là, nous vous demandons de comprendre ici, mais alors, en parler de manière claire, ça ne nous a pas donné l'impression que l'État a discuté de manière franche lorsqu'on vient directement balancer 20 000 francs.
20 000 francs.
Sans discuter avec les autres. 20 000 francs sans discuter avec les autres, ou 20 000 francs pour la prime de brousse sans discuter avec les autres. Et donc, c'est la méthode qu'il faut changer. Et je crois que la solution peut être trouvée, que les enfants peuvent retrouver leur droit à l'éducation si l'État accepte aujourd'hui de discuter d'une autre manière. Parce qu'en réalité, nous avons l'impression que le passé se résume, le passé revient. Ça veut dire que l'État veut aller au pourrissement et on laisse d'abord la chose continuer, on laisse la chose continuer jusqu'à ce qu'ils espèrent
la situation va pourrir. Oui.
Lorsque la situation va pourrir. Je pense que lorsqu'on est partenaire, on n'agit pas de cette manière-là. Et toute affaire cessante, nous demandons au gouvernement, effectivement, parce qu'ils l'ont d'ailleurs déjà dit, de rentrer à la table de négociation, de discuter de manière inclusive.
Avec,
de
les, manière avec les vrais syndicalistes, parce qu'on apprend qu'il y a des syndicats pro, pro-ministères et les vrais syndicats sont écartés des discussions.
Et les pro-ministères et ceux qui ne sont pas pour le ministère, tous sont des syndicats. En ce moment ici, on a besoin de trouver des solutions par rapport. Vous savez, il y a des syndicats pro-ministères, non, qui n'ont pas décrété la grève, c'est vrai, mais la situation sur terrain, c'est comment? C'est comment? Je crois qu'il faut dépasser cette manière-là de négocier, de croire que non, voilà, le salut au niveau du ministère viendrait en considérant deux syndicats ou trois syndicats. C'est une très mauvaise manière de voir les choses. Mmh. C'est ce que les autres ont fait. Et ça a mené au pourrissement. Je ne conseille pas au ministre actuel, Tony Mwaba, d'entrer dans ce schéma-là. Et ceux qui veulent l'entraîner dans ce schéma-là sont en train de l'induire en erreur. Je crois qu'il faut corriger. Il faut prendre même ceux qui ne sont pas pour vous. Ils peuvent toujours avoir des idées.
Bien, Jacques, un instant, on va accueillir les auditeurs. Platini Mbombo nous appelle de Mbandaka et Kikosa André est à Kolwezi. Platini Mbombo, bonjour.
Bonjour, je salue l'invité.
Quelle est votre question, Platini?
Voilà, merci beaucoup, Jody. Avant que je puisse poser ma petite question, je voudrais faire une petite analyse parce que j'ai bien suivi M. Jacques Tumaranga. C'est la personne que je le connais très bien avec son livre. Et les choses qu'on parle aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler. C'est une truc qu'on a commencé à parler depuis longtemps. Et jusqu'au preuve du contraire, on ne fait jamais la guerre des causes. Parce que je veux quand même vous dire ceci. À peine les rentrées préscolaires, oui, bien qu'ils étaient perturbées, mais il y a aussi ce qu'on appelle la timidité. Il y a aussi même ici dans la ville de Manaka, où il y a aussi les syndicats, après les rencontres, réunir tout ça, on dit que nous, on doit boycotter la rentrée scolaire. Sauf que parce que l'État, l'engagement de l'État promet, en fait, il n'y a pas une sorte de réalisation. Est-ce que moi, avant de poser, je pose encore la deux questions au monsieur le conseiller de l'État. Moi aussi, je souhaiterais que le ministre Tony Mwaba lui-même soit là au plateau, mais dommage, il n'est plus au plateau. Mais comme le conseiller de chef de l'État est là, c'est aussi une bonne chose. Si le conseiller de chef de l'État, est-ce que, avez-vous déjà, avant que le président de la République déclare la gratuité, est-ce qu'il a tenu compte du nombre des enseignants sur toute l'étendue du territoire national? Ça, c'est la première chose que je vais quand même demander à M. le fichier les consultations de l'État. Et ensuite, maintenant, là, le gouvernement fait toujours des promesses au niveau des enseignants. Mais la réalité sur le terrain, il n'y en a pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de recommencer encore avec les côtés, les parents? Parce que je dis, il y a un enseignant, mais il n'y a pas de bon enseignement. Les enseignants ne poussent pas à aller au niveau de la cour pour donner le cours. Il n'y a pas une constante. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revenir ce qu'on a fait de repartir des côtés des parents? Voilà un peu ce que je voulais voir des questions par rapport à les questions.
Bien, merci. Kikosa André, vous êtes à Kolwezi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, d'accord. Bon, en fait, moi, ma question, la toute première, est de savoir le ministre, quand il a fait ses études primaires. Est-ce que c'était payant ou, je veux dire, c'était les parents qui payaient ou c'était l'État qui s'en chargeait? Ça, c'est la première question. Bon, la deuxième question, est-ce que le gouvernement n'a pas d'argent pour payer ses enseignants là-bas? Si le gouvernement n'a pas d'argent pour payer les enseignants, et que quand il promet de donner peut-être 100 000 francs, il en donne 20 000. Mais pour qui on prend ces enseignants-là? On est en train de le clochardiser. On est en train de le clochardiser. Un enseignant doit être respecté, en commençant par le gouvernement, doit respecter l'enseignant. Mais malheureusement, ce qu'on voit, ce n'est pas le cas.
Alors, d'après vous, André,
une petite proposition,
voilà, André, d'après vous, quelles sont les voies de sortie?
Les voies de sortie, comme le gouvernement central n'est pas en mesure, pourquoi ne pas donner, ne pas obliger les gouvernements provinciaux à payer ces enseignants là-bas? Je pense que ça ne va pas coûter trop cher. Hein, que le provincial le fasse, au lieu d'attendre le gouvernement central. Or, par exemple, ici à Colouésie, au Lualaba, moi je pense, quand on parle que le Lualaba est la capitale mondiale du cobalt, donc le Lualaba peut jouer de son rôle pour prendre ne fût-ce que 1%, et ce pourcentage, là-bas, on pourra payer les enseignants. Allez, monsieur le journaliste.
Merci.
Moi, je pense la solution est que si le gouvernement central n'est pas en mesure, alors à ce moment-là,
les gouvernements provinciaux peuvent.
Aux provinciaux.
D'accord, merci. On va donner la parole à Kachai de Kanyuka. Bonjour, Kachai.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama, et bonjour à nos invités.
Kachai, quelles sont les solutions? Comment sortir de ce bras de fer entre le ministère de l'EPST et les enseignants?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Lorsque Tshisekedi a manifesté sa volonté de rendre l'école gratuite en RDC, tout le monde était content. Mais au commencement, là, on avait décrié. Qu'est-ce qu'on avait décrié? Qu'il y a des mesures d'accompagnement de la gratuité qui n'ont pas été suivies, notamment la prise en charge effective des enseignants, les bâtiments qui doivent abriter les élèves pour pouvoir recevoir un enseignement de qualité. Mais en exécution de ces mesures-là de gratuité, M. Jody, il y a maintenant des failles, notamment ce que nous connaissons aujourd'hui. On applique la contrainte à l'endroit des Congolais pour les réduire au silence à leurs droits qu'ils revendiquent le plus légitimement consacré par la Constitution. La solution n'est pas
la désactivation
des enseignants sur les listings de paye, monsieur Jody. Mais plutôt, c'est encourager les enseignants à pouvoir donner un enseignement de qualité. Pourquoi? Parce que c'est surtout les enfants des plus démunis qui sont dans les écoles publiques, monsieur Jody. D'autres enfants sont à l'école, au complexe scolaire. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a un enseignement de qualité. Si le ministre se permet, par exemple, de désactiver les enseignants parce qu'ils ont boycotté la gratuité, mais c'est encore mettre de l'huile sur le feu parce qu'ils ne vont pas bien enseigner. Moi, je pense au ministre de revoir sa mesure parce que les conditions de vie que passent les Congolais sont dragonniennes. Les soumettre encore à ces exigences-là de ne pas toucher leur salaire, c'est les tuer davantage. Aux enseignants, la gratuité est là. Comprenez aussi comment le pays est en train de fonctionner. Privilégiez le dialogue. Acceptez la gratuité. Allez-y d'abord à l'école et après, formulez les revendications au ministre pour qu'il puisse, avec son cabinet, trouver des solutions. Au syndicat, ce n'est pas toujours la grève qui peut résoudre les problèmes. Il faut aussi comprendre que la volonté politique est là, mais il ne faudrait pas, nous sommes encore au début de l'année scolaire, commencer à faire des exigences au gouvernement.
Mais là, qu'est-ce que les enseignants doivent faire? Ils doivent d'abord commencer à enseigner, reprendre les enseignements, sans espoir de voir leur salaire être majoré?
Non, monsieur Jody, le problème c'est celui du salaire-là. Parce que quand le salaire n'est pas majoré, vous savez, les enseignants, là, monsieur Jody, je vois les enseignants qui sont ici à Kanyoka, qui font des distances, qui n'ont même pas de bonnes conditions de vie. Moi, je demande au ministre, monsieur le ministre, quand vous n'étiez pas ministre, vous avez fait des observations, des recommandations à l'ancien ministre qui était là pour qu'il puisse améliorer le secteur de l'enseignement primaire, secondaire. Maintenant que vous êtes là, pourquoi vous ne pouvez pas améliorer là où votre prédécesseur a trébuché?
Merci, merci Kachai. Merci beaucoup. On va donner la parole à Lubaya Centre de Kolwezi. Lubaya, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, Lubaya, quelles sont les solutions à envisager pour résoudre ces problèmes, mettre fin à ces bras de fer entre le ministère de l'EPST et les enseignants grévistes?
En tout cas, monsieur le journaliste, je vais vous présenter d'abord mes inquiétudes concernant la décision prise par monsieur le ministre. Alors, pour moi, alors...
Oui.
Et pour moi, en tout cas, je trouve que les mesures que le ministre a pris pour désactiver les enseignants, c'est vrai, décevant. Alors, le gouvernement doit apprendre à respecter au moins les enseignants. Le ministre en question a été formé par les enseignants. Le président de la République a passé sur les bancs de l'école. Tout le monde, tous les gouvernements centrales et provinciaux ont passé sur les bancs de l'école. Ils doivent quand même apprendre à les enseignants. Donc, ça serait tout simplement une proposition. Si on manquait la volonté de bien trouver la solution, ils doivent au moins mobiliser les gouvernements ou organiser la plénière. Alors, ces plénières là-bas, c'est pour tout simplement organiser une voie
de dialogue. Voilà, vous proposez qu'on organise un dialogue, qu'on revienne à la table des discussions entre le gouvernement et les syndicalistes et trouver des solutions. Voilà, ensemble. Merci.
Non, la solution en est que ils peuvent au moins suggérer ou soit qu'on réduise même le salaire de députés en fait de dire remédier les enseignants. Combien de députés ici en République démocratique du Congo touchent comme salaire? On peut réduire même le salaire là-bas des députés, on va gratifier au moins la gratuité.
Bon, merci. Donc, vous proposez qu'on puisse réduire les salaires des députés et qu'on affecte une partie pour le paiement des salaires des enseignants. Et également, André qui a proposé que les gouvernements provinciaux puissent payer les enseignants dans chaque province. Jacques Timbalang.
Monsieur Jody, j'ai très bien suivi les auditeurs et il y a des solutions qu'ils ont proposées qui valent leur pesant d'or. Il vous souviendra que dans un passé récent, nous avions proposé des solutions sur le financement innovant de l'éducation. Et là, les analyses ont même démontré que les provinces, de qui dépendent constitutionnellement en réalité l'enseignement primaire, secondaire et technique, ne dépensent pas plus de 1% de leur budget pour soutenir l'éducation. Cela veut dire que si dans les voies pour trouver des solutions, il y a d'un côté, parce que le problème qui se pose, c'est véritablement le problème du financement des salaires des enseignants, du financement de l'éducation pour avoir un enseignement de qualité, les deux aspects qui nécessitent beaucoup d'argent. Les solutions peuvent être trouvées à trois échelles. Premièrement, c'est le niveau national. Si déjà au niveau national, on continue à respecter la progression du budget jusqu'à atteindre au moins 20%, d'être au-delà de 20%, jusqu'à atteindre au moins 25% du budget national, au niveau interne, du financement de l'éducation au niveau interne, ça va déjà être une bonne chose. Ça, c'est maintenant, c'est le gouvernement qui doit prendre cet engagement de manière ferme et repartir cela de manière à commencer de manière à faire en sorte que la question de la rémunération des enseignants, la question des intrants pédagogiques commence à avoir des solutions. Deuxième aspect, ce sont les provinces. Les provinces brassent aussi beaucoup d'argent. Mais les provinces ne financent pas l'éducation au prorata du montant ou de la part que le gouvernement central donne. C'est dire que pour les provinces, en réalité, elles n'investissent pas dans l'éducation. Alors qu'en réalité, les problèmes, quand elles se posent comme ça, les enseignants là sont dans nos différentes provinces et que de deux, les ressources que les provinces collectent, elles collectent également des impôts, droits, taxes et redevances. Ils distribuent ça dans toute autre chose, notamment dans l'augmentation du train de vie des institutions provinciales, sans notamment investir dans les secteurs sociaux pour soit construire les infrastructures, prendre en charge, par exemple, les enseignants nouvellement engagés, ainsi de suite. Et cela est possible si... Prenez des provinces comme il y a des provinces qui ont suffisamment de moyens aujourd'hui. Si vous prenez le Haut-Katanga, le Lualaba et même la ville province de Kinshasa qui a beaucoup d'argent, qui est l'une des provinces les plus riches du Congo, la ville de Kinshasa, il est possible que si on raisonne dans le sens de dégager une quotité sur le budget provincial d'au moins 20% dans le budget provincial, cela peut commencer également à participer au financement de l'éducation et à résoudre les problèmes mineurs et majeurs qui se posent dans le secteur en complément de ce que le gouvernement central le fait. Et nous avons l'impression que les provinces ont croisé les bras, les provinces investissent dans autre chose que ce qui améliore la qualité de vie des citoyens, membres de la communauté nationale, notamment l'éducation. Donc, deuxième aspect, c'est celui de la participation des provinces dans le financement de l'éducation sur leur budget. Ils peuvent également avoir au moins 20% des budgets provinciaux alloués à l'éducation. Troisième aspect, ça c'est une solution à moyen terme que l'on peut envisager. C'est notamment ce que nous convenons d'appeler le financement innovant. Par exemple, l'État, dans d'autres pays, on essaie des solutions comme ça, des solutions qui sont innovantes, propres à notre pays. Prendre, par exemple, une quotité dans les redevances que les exploitants miniers payent dans l'exploitation des mines, des hydrocarbures, voire même des télécommunications. Pourquoi pas? Non, n'ayons pas honte de cela. Cela peut dégager aujourd'hui des montants importants qui puissent être orienté vers le secteur de l'éducation. Donc il y a des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Pour l'instant, le gouvernement devrait, pour ce faire, se donner les moyens d'avoir les ressources. Et ces moyens-là, il y en a. D'abord au niveau budgétaire, où il faut continuer la marche pour l'augmentation du budget alloué à l'éducation et commencer à les répartir pour, bien entendu, commencer à satisfaire les besoins des enseignants. Mais comme nous le disons, le gouvernement et leurs partenaires sociaux, les enseignants, les syndicats, doivent créer les conditions saines de la reprise des négociations entre les deux parties pour garantir que les enfants ne vont pas continuellement souffrir du manque d'éducation parce qu'ils en souffrent déjà. Et c'est depuis, ça c'est la troisième année, qu'on est dans des tracas terribles de cette manière-là. Quels sont les signaux que l'État doit donner au niveau du gouvernement central? Il faut absolument, il est important, et ça nous conseillons vivement, nous faisons un appel pressant au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de voir avec ses services pour d'abord lever la mesure de désactivation des enseignants.
Alors, Jacques Tchimbalanga, il était prévu qu'on puisse accueillir aussi le professeur Peter Kasongo, qui est conseiller du chef de l'État, l'un des conseillers dans le domaine de l'éducation. Il nous a dit que le gouvernement, la présidence n'a pas encore une position sur cette question. Cependant, le ministre Mouaba devait être flexible, d'après le conseiller.
Absolument, absolument, il doit être flexible et c'est aussi cela le partenariat, c'est aussi cela le jeu de partenariat, c'est aussi cela. Nous le conseillons vivement de lever cette mesure-là, ça va créer la détente en ce qui concerne la négociation. Quand on veut négocier avec les partenaires, il faut créer toutes les conditions pour ce faire. Nous conseillons vivement et nous le répétons, nous conseillons vivement au ministre de lever cette mesure-là pour créer des conditions saines de reprise des négociations. De notre côté...
On va accueillir deux auditeurs, Jacques de Bandundu et Georges de Bandunduville et Jacques de Kindu. Georges, bonjour.
Bonjour, Baba.
Rapidement, quelles sont les solutions que vous envisagez pour résoudre ce problème?
Ma contribution va dans les presse, mon prédécesseur qui vient de dire. Le ministre, il est de la dictature. Nous avons connu la dictature de Mobutu dans ce pays. Mais lui, il veut continuer avec cette dictature. Il y a la justice qui va le tenir. Il y a aussi le il est pas autorisé en ce moment-là, parce qu'il sert vraiment
bon. Bon, on vous entend pas très bien, mais vous parlez, vous déplorez la dictature du côté du ministère de l'EPST, donc.
Je parle au ministre. Ce ministre-là n'a pas le droit à
ok, Osengi a Azongi Sabango, Azongi Sabango enseignant Oyo Bazaki désactivé.
Azongi Sabango, Azan a droit à nager.
D'accord, merci Georges. Jacques, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour Jody.
On vous écoute Jacques.
Bonjour. Oui, moi je reviens toujours à la problématique de la gratuité.
Rapidement, Jacques, vous n'avez, que, vous, n'avez,
vous, deux volets.
Vous n'avez que quelques secondes. On est presque à la fin de cette partie, de la première partie de l'émission. Allez-y rapidement.
Oui, la problématique de la gratuité. Le gouvernement avait commencé cette gratuité il y a longtemps. Et cette année, il y a deux ans, le chef de l'État a essayé, avec son gouvernement, de rendre effective cette gratuité. Mais des mesures... les précautions n'étaient pas bien établies. Voilà pourquoi nous sommes en train d'assister à des grèves des enseignants.
Alors, là, quelles sont les solutions?
Oui.
Allez-y rapidement avec les solutions, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Oui. Les solutions, c'est quoi? Pour moi, les solutions, d'abord, le ministre de l'EPST doit revoir ses décisions par rapport à la désactivation des enseignants.
Oui.
De deux, négocier avec les syndicalistes et trouver des solutions, répondre aux besoins, aux réclamations, aux revendications des enseignants, c'est tout. Parce que ceux qui sont pénalisés sont nos enfants. Ceux qui sont pénalisés sont nos filles, sont nos garçons, sont nos fils du pays.
Entre-temps, par exemple, les élèves qui sont dans les écoles privées continuent, ils étudient sans problème, mais les autres sont déjà en retard une semaine sans avoir étudié. Merci d'avoir appelé Jacques Tchimbalanga.
Eh bien, donc, c'est un peu comme on le dit, c'est tout le monde qui décrit aujourd'hui le fait que l'année scolaire continue à prendre du retard et de tous côtés, il y a donc quelque chose à faire parce que on ne va pas accepter une troisième année perturbée et cela impacte dangereusement même la pertinence des résultats scolaires, et ça c'est déjà un problème. Et comme nous le disions, il faut absolument, et le plus rapidement possible, comme déjà ce dialogue-là est accepté par toutes les parties, mais que toutes les parties doivent créer aujourd'hui les conditions d'une détente pour justement négocier de manière saine, sans pression. Tout le monde sait, pour négocier de manière saine, sans pression, d'un côté tout comme de l'autre, il y a des choses à faire pour faire avancer les choses. D'un côté, nous demandons, effectivement, nous demandons au ministère, bien entendu, de laisser de côté un peu cette mesure de désactivation qui, par contre, d'ailleurs, dans tous les cas, c'est pour une seule absence, l'absence d'une journée. Je ne pense pas que l'on puisse aller à la sanction la plus extrême, l'exclusion. Parce que la désactivation, c'est en réalité l'exclusion. Ce n'est pas normal, même sur le plan du droit, ce n'est pas soutenable. Ce n'est véritablement pas soutenable, mais aussi, c'est que sur le plan social, de la négociation sociale, dans le règlement de conflit, bien entendu, on ne peut pas arriver jusque-là lorsque l'on veut obtenir des résultats auprès de... Donc, sur le plan de l'entretien du partenariat, eh bien, évidemment, il faut que chaque côté comprenne que nous avons à faire pour essayer d'avoir des négociations efficaces. Et donc, nous le prions donc de le faire de cette manière-là. De l'autre côté, au syndicat, de comprendre également que nous ne pouvons pas aller plus loin si nous refusons les négociations. Refuser les négociations, c'est aussi, ce n'est pas seulement dire que non, voilà, nous refusons. Non, le refuser les négociations ou ne pas accepter les négociations, c'est lorsque l'on dit tout simplement, l'on n'accepte pas toute autre chose, toute autre solution. Nous pensons qu'il est important aujourd'hui que chacun sache que dans les négociations, il y a quelque chose à perdre et quelque chose à gagner, mais l'essentiel, c'est qu'on arrive à trouver un terrain d'attente et le plus rapidement possible, et le ministère et les banques syndicales, de manière inclusive. Et là, nous insistons sur l'inclusivité. L'inclusivité dans le sens que qu'on n'appelle pas seulement les gens qui plaisent ou qui ne plaisent pas. Hein? Il faut absolument que ce soit inclusif. Parce que des gens qu'on laisse à côté peuvent toujours continuer à déranger. Je crois que il est important de maximiser les chances de réussite de ce deuxième round de négociation pour qu'enfin nos enfants soient libérés de leur soif d'accéder à l'éducation.
Bien, Jacques Tshimbalanga, coordonnateur national de la coalition nationale pour l'éducation, pour tous Connect RDC, merci. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup à vous, monsieur Jeudi, et merci à Radio Okapi.